Où vivrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre aujourd'hui sur la thématique de la semaine dernière. On avait parlé des ghettos et ce terme était revenu beaucoup dans l'actualité politique. Et la raison pour laquelle je voudrais en reparler aujourd'hui, c'est qu'on a continué d'en parler. Bien sûr, c'était lié à l'événement dramatique que tout le monde a pu voir de l'assassinat du professeur. Alors, effectivement, on a eu des prises de parole, et des prises de parole qui se sont passées donc pendant la semaine. Il y en a deux, mais il y en a une notamment qui était du recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bon, c'était d'ailleurs un entretien qui était dans Le Point, de très bonne qualité par un intellectuel, vraiment une grande qualité intellectuelle et humaine sur cet entretien. Simplement, en fin d'entretien, il a dit, alors il n'y a pas de ma part de mauvaise pensée, de penser qu'il y a un double langage, pas du tout. Simplement, cette personne a repris, on peut dire, les idées que l'on entend. Alors, à la question qu'on lui posait à la fin de l'entretien sur les responsabilités diverses de l'État, il a dit une phrase assez surprenante, mais surprenante relativement, puisque c'est quelque chose que l'on entend dans les milieux de l'architecture, de la sociologie. Il a dit donc « L'État a mené une politique détestable d'urbanisme et de ghettoisation sociologique et économique. » Alors, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait passer inaperçu, mais comme j'avais dit la semaine dernière, et je pense que c'est la ligne directrice de ces entretiens, c'est qu'il est important de bien nommer les choses. Tout le monde connaît le mot de Camus, que mal nommer les choses ajoute à la misère du monde. Et là, je crois qu'effectivement, on est sur quelque chose qui est très important, parce que ça concerne notre société. Et l'emploi de mots comme la politique détestable d'urbanisme ou la ghettoisation sociologique et économique demande un débat, et on ne peut pas uniquement dire des choses comme cela. Alors on sait qu'effectivement, quand on nomme mal les choses, il y a des politiques qui, évidemment, sont liées à ces diagnostics qui sont des diagnostics biaisés, qui sont des diagnostics non démontrés. Et quand ensuite on a des politiques, par exemple, comme celle de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a œuvré d'une manière considérable et financièrement très très lourde pour notre économie à des rénovations de quartiers, justement dans cette ligne, c'est-à-dire de réparer les erreurs du passé. Et donc, je voudrais revenir sur ce point qui me paraît essentiel, à la fois sur la question de quelles étaient les erreurs du passé. Parce que si on n'arrive pas à bien décrire ce qui a été mal fait, là où on a pu fauter, et c'est bien possible aussi qu'il y a des choses, rien n'est parfait. Mais si on ne détermine pas d'une manière précise où a été le problème, il est évident qu'il ne suffit pas de dire on va mettre beaucoup d'argent et pour être près d'une solution. Donc, on avait déjà parlé des problèmes des utopies et je veux parler la semaine dernière de l'utopie du centre-ville qui est apparue au moment de 68 et qui était une sorte de contre-feu par rapport à l'idéologie moderne. Donc je pense qu'il faudrait revenir sur cela parce que la critique des grands ensembles et la critique de cet urbanisme est en fait une critique de la pensée moderne, de la pensée, on peut dire, du XXe siècle en architecture et en urbanisme. Alors bien sûr, rien n'est parfait, et d'autant plus qu'il y avait, on peut dire, pendant le XXe siècle, une des utopies sociales, et l'urbanisme faisait partie d'une construction à la fois qui était, on peut dire, qui palliait aux nécessités du temps, et notamment la place du logement. Mais évidemment, il y avait une vision de la société et, d'une manière peut-être plus contestable aussi, une vision de l'homme, et l'urbanisme et l'architecture n'échappaient pas au mouvement qui était le mouvement de, entre guillemets, progrès, de progressisme, et notamment lié au communisme, où on avait une vision très égalitaire de l'homme, d'un homme nouveau, sans parler des dérives du national-socialisme en Allemagne. Mais en fait, il n'en demeure pas moins que même sans être dans un pays communiste, le mouvement moderne avait une forte empreinte sur tout ce qui a été bâti et qu'en face, on n'avait que, on peut dire, un régionalisme qui était rétrograde, mais qui, effectivement, n'alimentait pas un vrai débat. Et ce débat, on pourrait dire que ce débat n'a vraiment pas eu lieu. Donc, on se trouve, on pourrait dire, maintenant, bien plus d'un demi-siècle après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 70 ans après. Et il serait peut-être temps de regarder d'une manière plus sereine, justement, ces constructions de l'après-guerre et de ne pas les qualifier de ce mot « ghetto » qui est un mot totalement inapproprié. Et j'avais expliqué pourquoi, parce que ça nous ramenait à une histoire qui n'avait absolument rien à voir avec le ghetto et la ghettoisation, à la fois l'histoire des ghettos dans l'histoire médiévale et de la Renaissance des sociétés européennes, mais aussi, d'une manière plus récente, le drame du ghetto de Varsovie et de sa révolte avec les 300 000 personnes qui ont été tuées à l'intérieur. Donc je crois qu'on ne peut pas faire des extensions de cela par rapport à une situation française qui est celle des constructions modernes qui ont été réalisées pour loger les gens dans l'après-guerre. Donc il y a aussi quelque chose qui est fondamental dans ce débat, c'est la relation qu'il y a entre contenant et contenu. Donc c'est quelque chose que je répète, il ne faut pas donner une importance aussi grande à la boîte qui contient les gens, puisque l'architecture, dans l'histoire des hommes, on vit dans des villes qui ont été bien souvent dessinées, des bâtiments très anciens, qui renvoient à des sociétés qui sont oubliées dans leur forme, et on continue d'avoir notre mode de vie, nos modernités, et on sait très bien qu'il peut y avoir des régimes démocratiques, des régimes qui ne le sont pas, dans des villes magnifiques, et que la relation entre la forme la forme des bâtiments et la forme des sociétés, même si il peut y avoir effectivement une interaction, n'est en tout cas pas dans un déterminisme total, et les humains gardent, les sociétés humaines gardent toujours une liberté de manœuvre, une liberté d'interprétation en fonction des lieux qu'elles investissent et qu'elles habitent. Bon, ça c'est, je pense, un élément important de notre débat, c'est de dissocier la société et ses problèmes et le bâti. Donc, en se focalisant uniquement sur le bâti, on passe évidemment à côté des problèmes qui sont des problèmes humains, qui sont des problèmes de société, comme les sociétés rencontrent, des problèmes d'éducation, des problèmes de pauvreté, des problèmes qui sont liés au mouvement des populations également, et qu'il faut dissocier des problèmes qui sont, on peut dire, bassement matériels, même s'ils vont être, on n'a plus en parler, des problèmes d'isolation des bâtiments, etc. Donc, quand on mélange tout, on arrive effectivement à avoir ce qui a été cette politique de l'ANRU, où on a tout mélangé, les aides sociales, l'isolation des bâtiments, le logement, les gens, enfin bon, tout un espèce de méli-mélo où effectivement personne ne peut se rendre compte des résultats, mais ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'on a dépensé des sommes énormes depuis 30 et 40 ans. Et pour des résultats que l'on voit aujourd'hui être assez désastreux. Et c'était justement ce qui m'a frappé dans les propos de cette semaine, c'est qu'en fait, on a recommencé de dire « il faudrait en mettre plus ». Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait développer cette politique qui a été, à mon sens, une politique totalement erratique et pas du tout ciblée sur les vrais problèmes. Alors il y avait, après cette personne fort honorable là, qui était le recteur de la Grande Mosquée de Paris, une personne qui est le maire d'une commune donc de la Grande Couronne de Paris, une ville effectivement où il y a une forte population d'origine immigrée, Chanteloup-les-Vignes, et une ville qui a connu aussi des problèmes au cours des dernières années. Alors, cette personne, justement, disait qu'il fallait continuer cette politique qui avait été initiée notamment par Borloo, qui était alors ministre, et on a eu avec le Grenelle de l'environnement, mais il y avait aussi une politique de rénovation des bâtiments qui était donnée comme la solution à tous les problèmes. Et cette personne disait donc qu'elle avait bénéficié des aménagements donnés par la loi, c'est-à-dire des reconstructions d'immeubles, des gens qui quittaient des immeubles des années 50 pour aller dans des nouveaux immeubles, et elle disait que ça avait été bénéfique pour les populations, bon, ce dont on ne peut pas douter, mais en fait, ce n'est pas uniquement le changement d'immeuble, parce que dans son propos, elle donnait le côté positif, puis elle faisait une critique de l'État, parce que dans les opérations qui ont été faites dans sa commune, comme je vous disais, donc il y avait des opérations de reconstruction de bâtiments, peut-être d'une qualité meilleure que celle existante, et les populations des anciens bâtiments étaient passées dans les nouveaux avec du bénéfice. Et elle disait que l'État avait fauté parce qu'on avait logé dans les anciens bâtiments des populations nouvellement immigrées, et elle dénonçait l'État, et elle disait « c'est le tonneau des Danaïdes ». Alors, c'est assez curieux, parce qu'en fait, ce dont on parle simplement de populations qui ont un niveau de vie qui s'élève, et c'est le phénomène que l'on a connu, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, d'une manière générale sur les classes moyennes françaises, et qui ne touche pas, qui a touché effectivement les personnes venues de l'immigration, mais ça a été un phénomène général des classes moyennes, et ce phénomène dont bénéficiaient aussi donc les personnes issues de l'immigration, comme les personnes qui venaient d'autres milieux ruraux ou du milieu urbain plus pauvre. En tout cas, c'est cette amélioration des conditions de vie et, on peut dire, une création d'une classe moyenne plus générale. Nous avons avec ce maire de Chanteloup-les-Vignes, elle met le doigt sur le fait de l'immigration, et ce n'est pas du tout mon propos de parler d'immigration, mais simplement, il y avait simplement des populations nouvelles qui investissent ces lieux et qui sont justement les grands ensembles de l'après-guerre. Et donc, on n'est pas du tout sur ce que l'on dénonce de ghetto, mais on est au contraire sur une mobilité sociale. Après, le problème des nouvelles vagues d'immigration est un problème, évidemment, qui n'est pas du tout un problème architectural, et je ne parlerai pas de ça. Donc, on va faire une pause musicale et on va parler ensuite du sujet, et notamment sur le même sujet de la mixité sociale. We'll be right back. Oui, nous reprenons donc sur les utopies et les grands ensembles et l'architecture du mouvement moderne, effectivement, qui ne peut pas être résumé uniquement par des mots négatifs, parce que pour une raison bien simple, c'est que d'une part, on ne fait rien de très différent aujourd'hui, et simplement, ce qui est important, c'est de savoir quelle était l'utopie qui a conduit à construire dans cette après-guerre. Donc il y a effectivement une vision de la société qui est à la fois, on peut dire, égalitaire et à la fois figée. Et la question, c'est est-ce que nous sommes sortis de cette vision ? Il semblerait que nous ne soyons pas vraiment sortis. Donc, nous sommes toujours dans une espèce d'absolu égalitaire, notamment en France. Et un rapport aussi, on peut dire, des bâtiments au territoire, qui est aujourd'hui repris par l'écologie et qui est en ligne de droite du mouvement moderne, où les bâtiments sont posés sur un sol qui est de naturel, végétalisé, avec des arbres et des plantes. Et donc, par exemple, Le Corbusier prônait que les bâtiments soient sur pilotis pour qu'on puisse voir la nature à travers les bâtiments quand on était au rez-de-chaussée. Donc, cette vision-là, qui peut paraître à la fois naïve, mais qui est tout de même toujours prégnante l'esprit, on peut dire, de la construction d'aujourd'hui, a produit à la fois des quartiers résidentiels, on peut dire, satisfaisants, et puis il y a eu ce que l'on voit aujourd'hui dans de nombreux quartiers, mais pour des raisons évidemment qui sont totalement pas directement liées à ces choix architecturaux. En d'autres termes, le mouvement moderne, et on peut dire notre société d'une manière générale égalitaire, a supprimé les hiérarchies qui étaient présentes dans la ville, et on peut dire aussi des ségrégations qui étaient très fortes. J'en ai déjà parlé de cela. Et enfin, avec l'utopie des centres-villes, de croire que la ville ancienne était une ville égalitaire, ce qui était évidemment loin d'être le cas. Au contraire, c'est une ville aristocratique avec des positionnements hiérarchisés, transmissibles, c'est-à-dire qu'on ne sortait pas de sa caste. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, fort heureusement, où il y a une mobilité sociale, une mobilité sociale aussi, qui se traduit par une mobilité de la domiciliation. Donc, je pense que aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure de ce changement fondamental de société, c'est-à-dire de la société mobile, même si on dit que l'ascenseur social est en panne. Bon, c'est des choses que l'on entend, mais il y a bien une réalité, notamment de la classe moyenne et aussi de classes supérieures, dans lesquelles, malgré tout, il existe des mouvements, et nous ne sommes pas une société figée comme les sociétés de l'Ancien Régime. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler. On est toujours dans le négatif, mais il y a quand même des choses qui sont différentes. Et de ce fait, on ne peut pas fonctionner à la fois sur le mode ancien, avec une société figée, et à la fois sur le mode de la société mobile, dans laquelle, justement, il y a ce qu'on appelle les parcours résidentiels. Les parcours résidentiels, ça veut dire qu'on passe au cours de sa vie de différents types de logements, suivant son âge, suivant sa famille, suivant son métier, le métier aussi du conjoint, les études des enfants. En fait, il y a une complexité aujourd'hui qui évidemment, n'existait pas dans le monde ancien dans lequel les enfants de mineurs, ils étaient mineurs et la maman attendait le retour du père et dans des cités minières qui ne bougeaient pas et on peut appliquer ça à peu près tous les métiers. Donc la société d'aujourd'hui, dans sa mobilité, elle pose un rapport avec le logement, mais d'une manière plus générale avec l'urbanisme, évidemment, qui est totalement changé. Alors nous avons, je crois, une erreur, c'est de penser justement que le monde est figé et que quelque part on a affaire à des sociétés où on ne vit jamais et on ne meurt jamais. Parce que quand on parle, par exemple, de mixité sociale, on imagine qu'on va mettre des ingrédients de société avec des riches, des moins riches et des pauvres. On va les mélanger ensemble et on va créer le vivre ensemble, une espèce de dosage que l'on va faire comme quand on fait de la cuisine où on assemble des aliments. Alors, les choses ne sont pas du tout cela, puisque cet assemblage, il éviterait toute mobilité. Ça veut dire que vous seriez affecté à une habitation à loyer modéré dans un immeuble de riches parce que vous êtes dans le quota, mais bien sûr, il faut que vous restiez pauvre, puisqu'autrement, vous perdez votre logement. Tout ça, on est dans l'absurde absolu dans cela. Ce sont des choses qui coûtent très très cher, qui vont contre la volonté des gens, parce que les gens préfèrent l'entre-soi. Et ce n'est pas uniquement les riches qui préfèrent l'entre-soi. Je crois que c'est toutes les classes sociales qui cherchent cela. Il suffit de regarder les annonces immobilières. Les annonces immobilières, elles sont transparentes par rapport à cela. Et jamais vous avez recherche un logement qui est à fort mélange social et animé, etc. Donc c'est toujours des questions de calme et c'est pas du tout cela. Donc, il y a, je pense, une... je ne sais pas si c'est... On peut parler d'hypocrisie, mais en tout cas, c'est un monde qui n'est pas le monde réel. Et ce monde factice, qui n'est pas le monde réel, qui est une sorte d'utopie égalitaire où le vivre ensemble, c'est-à-dire les classes vivraient harmonieusement, les riches, les moins riches et les pauvres, les Français de souche, ceux qui le sont moins, et les immigrés qui sont arrivés récemment. Et on arriverait à faire, par l'urbanisme, une espèce de dosage social idéal, mais évidemment, ça serait une utopie de société, bien sûr, parce qu'on demanderait aux gens de rester chacun à leur place, c'est-à-dire que vous ne bougerez pas. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes, par exemple, immigré récent, de sortir du logement précaire que vous avez pour aller dans un autre logement, puisqu'en fait, le vivre ensemble, vous seriez assigné, on peut dire, à votre place. Alors, attendu que, évidemment, ce qui est important, c'est cette mobilité. S'il y a cette mobilité, ça veut dire qu'il y a aussi un choix important de logement. C'est-à-dire qu'on peut habiter dans différents logements. Regardez, par exemple, les véhicules automobiles. Ben, vous avez des voitures qui valent 200 000 euros. Vous avez des véhicules qui sont de moyenne gamme, des véhicules qui valent 5 000 euros, puis 30 000 euros, puis vous avez des véhicules bien moins chers, puis vous avez des véhicules d'occasion qui roulent et qui valent 1 000 euros. Et tout le monde trouve son bonheur par rapport à cela. On ne fait pas des quotas pour dire il va y avoir des quotas pour les pauvres de Ferrari ou de Rolls. Et c'est ce qu'on veut faire avec le logement. C'est une absurdité totale. Et quand je dis cela, les gens me disent « mais c'est pas pareil ». Pourquoi c'est pas pareil ? Mais si, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on dirait « on va faire des quotas des véhicules automobiles ». Et là, effectivement, les gens réfléchissent en disant « oui, mais c'est quelque chose qui est peut-être un peu absurde ». Donc aujourd'hui, cette politique qui, évidemment, dans l'absurdie complète et pour ne pas dire imbécile, je pense que ce qui est favorisé, c'est la mobilité sociale. Donc, ça veut dire l'éducation, ça veut dire l'égalité dans le travail, ça veut dire l'éducation, la formation professionnelle. Enfin, tout un paquet de choses qui sont au niveau de la société et qui ont un coût, mais en tout cas qui ne sont pas évidemment dans une répercussion dans ces grandes rénovations où on démolit à grands frais des immeubles, on en reconstruit d'autres qui sont pas mieux que ceux que l'on a démolis, et ça coûte 10 milliards, un gouffre permanent, et un gouffre permanent qui n'a pas résolu les problèmes de notre société. Donc, voilà, donc tout cela est quand même assez triste. Et pour revenir à ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, on a mal nommé les choses et qu'à force de mal nommer les choses, d'employer des mots comme ghetto et ghettoisation, ben, nous arrivons à des situations qui sont inextricables et imbéciles. Et il suffirait un peu de sagesse pour poser les problèmes là où ils sont et pas chercher des solutions là où il n'y en a pas. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Merci à Yanis et Maeva qui officient à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?